toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints pour ce 23e épisode, 23e et avant-dernier épisode des lundis de Ruralitique. Aujourd'hui, exceptionnellement, nous sommes avec nos amis des Outre-mer et plus particulièrement avec nos amis de Cap-Nord-Martinique pour évoquer un dispositif qui est assez ancien, qui a donc un vrai recul sur des questions qu'on se pose un peu tous les jours. C'est le Media Lab, créé par Cap-Nord Martinique donc, en 2015, si je ne m'abuse, dans le cadre de son programme Territoire de demain, et qui permet de faire de l'éducation à l'information et donc quelque part à la citoyenneté des jeunes de ce territoire, de cette intercommunalité, dont voilà, nos speakers d'aujourd'hui vont nous brosser le portrait en 30 minutes, puis après on aura 30 minutes de questions-réponses, comme toujours. Donc sont avec nous aujourd'hui Dominique Destin.
Oui, bonjour.
Bonjour et bienvenue, Corinne Bonville. Et Annelise Thomas. Voilà.
Bonjour à tous et à toutes.
Donc, alors c'est enregistré, bien sûr, ce sera ensuite rediffusé sur le site de Ruralitique. Et je précise qu'on est en multi-streaming sur un certain nombre de comptes et de pages Facebook et YouTube, etc. Et voilà, j'espère que tous les territoires ruraux qui sont les habitués de Ruralitique vont prêter une oreille attentive à ces travaux que vous avez enclenchés, je le rappelle, dès 2015. Voilà. Dominique, c'est vous qui lancez la présentation ?
Oui, voilà. Donc, je dois présenter notre territoire, en fait, le nord de la Martinique. Hein, et pour ceux qui ne le connaissent pas, en tout cas, donc le nord de la Martinique, c'est un territoire qui se trouve dans la mer des Caraïbes, en fait. Hein, bon, c'est un territoire qui se trouve entre la Dominique, c'est une île comme nous, et qui est une île anglaise, et Sainte-Lucie, qui est aussi une île anglaise. Nous avons la Dominique dans le nord, donc au-dessus de Grand Rivière, et nous avons Sainte-Lucie dans le sud, au sud de Sainte-Anne. Donc voilà comment donc on peut situer la Martinique dans l'Arpentière. Donc la mer des Caraïbes à l'ouest. Et la Martinique, de par son statut de département puis de territoire français, est aujourd'hui à 6900 km de Paris. Donc quand on prend l'avion, ça revient à voyager dans un avion entre 7 et 8 heures. Nous sommes moins loin de New York, avec lesquels nous avons moins de liens économiques et administratifs, en fait, puisque nous sommes centrés sur Paris. Et nous sommes pas loin de la Guadeloupe, qui est, donc, quand on a dépassé donc, le canal de la Dominique, puis le canal de la Dominique par le nord avec la Guadeloupe, on arrive sur le territoire de la Guadeloupe. Donc, la Martinique, c'est une des régions françaises, en fait, qui se trouve dans la frontière. Et nous sommes aujourd'hui, donc, à Cap-Nord. Cap-Nord, c'est un sous-territoire de la Martinique. Cap-Nord, c'est un territoire qui fait à peu près 50% du territoire de la Martinique, puisque la Martinique, c'est 1100 et quelques kilomètres carrés, 1128 kilomètres carrés, quand Cap-Nord fait 548 kilomètres carrés. Nous avons une population qui, aujourd'hui, diminue, comme celle de la Martinique, qui était il y a près de 20 ans à 400 000. Aujourd'hui, nous sommes autour de 368 783 personnes en Martinique. Et à Cap-Nord, nous sommes passés en 2000 de 105 ou 108 000 personnes à moins de 100 000 en 2018. Donc avec une population qui est une population vieillissante. Pourquoi nous nous appelons Cap-Nord ? Parce que effectivement, nous avons été un pays, ce qu'on appelle un pays au sens français du terme, au sens de la loi Voynet, et nous avons convenu que quand on est passé en communauté d'agglomération en 2014, au 1er janvier 2014, que le nom pouvait être intéressant, puisque nous avons appelé Cap-Nord communauté d'agglomération du pays Nord Martinique. C'est ça, Cap-Nord. communauté d'agglomération du pays Normandie. Donc, vous avez une super belle photo qui est un des aspects du Nord, en fait, qui est un territoire rural, qui est un territoire avec beaucoup d'aléas, je dirais, climatiques, hein, et avec un aléa particulier, celui que vous voyez qui est aussi beau, qui peut être aussi dangereux que beau, c'est la montagne Pelée. Donc la montagne Pelée qui est au nord de la Martinique, qui se trouve sur le territoire du Nord, sur les terres d'Ajoupa-Bouillon, par lequel on peut rentrer aussi bien par la ville de Smordes-Rouge, la ville du Prêcheur, et Cap Norafi est d'ailleurs un certain nombre de travaux pour avoir un accès facilité par le Prêcheur, ou bien de l'autre côté, sur la côte atlantique, par la ville de Basse-Pointe. Donc, la montagne Pelée est accessible par plusieurs bouts. D'ailleurs, elle fait partie d'un circuit de course et de rallye, de raids à pied, par lesquels de nombreuses personnes passent plusieurs fois dans l'année. Donc ensuite, le Nord est un territoire qui est un territoire très particulier. Alors, j'ai parlé des aléas, hein, nous avons beaucoup d'aléas, mais c'est un territoire qui est riche, parce que c'est le premier territoire qui a vécu en Martinique, en fait. Si on regarde donc l'évolution historique de la Martinique a été habitée par des populations qui venaient des bassins de l'Orinoque, en fait, du côté du Venezuela, et qui se sont installées sur les rives de Casse-Pilote à Saint-Pierre. Et c'était les Caraïbes, c'était d'abord les Arawaks, puis les Caraïbes. Et ces personnes ont eu, donc, toute l'histoire de la Martinique a permis de pouvoir utiliser donc, leur passé. Alors, il y a toujours les Caraïbes à la Dominique. Hein. J'ai présenté tout à l'heure la Dominique comme étant l'île qui est au nord de la Martinique. Mais nous avons pu, par le passé, bénéficier de beaucoup de choses, en tout cas, et il y a beaucoup d'éléments présents, toujours, de ces cultures. Donc, outre cette histoire, bon, nous avons une histoire qui est une histoire extrêmement riche, depuis l'histoire précolombienne jusqu'à l'histoire récente. Le nord de la Martinique est la partie de la Martinique qui a le plus d'éléments visibles de son histoire. Et c'est d'ailleurs un des piliers de notre développement, puisque en dehors des patrimoines naturels et paysagers que nous avons, qui sont super beaux et qui méritent d'être vus, vous avez une richesse culturelle et historique dont je viens de parler, qui parle de la période précolombienne jusqu'à la période du XXe siècle, en fait, où il y a eu un certain nombre d'actions particulières. Alors, nous avons, malgré tout, en fait, il y a deux éléments qu'on peut ajouter encore pour ce territoire. C'est que c'est le territoire qui a abrité Aimé Césaire. Aimé Césaire est quelqu'un du territoire nord de la Martinique. Il est de Basse-Pointe. Et aussi Édouard Glissant, qui est un autre poète connu, qui est de Saint-Paris, lui. Et il a plus exercé du côté de Bâton Rouge aux États-Unis. Mais c'est un Martiniquais venant du Nord. Et puis, on a une autre personne en termes de richesse patrimoniale qui est aussi importante, qui est très peu moins connue, mais qui est connue dans le milieu médical, qui est le docteur Morestin, qui est aussi de Basse-Pointe, qui a eu l'occasion de travailler lors de la Première Guerre mondiale sur les gueules cassées. Donc voilà, donc, qui est connu internationalement, qui a fait sa carrière aux États-Unis, mais qui est un Martiniquais aussi de Basse-Pointe. Donc voilà, nous avons quand même, donc, après avoir bossé le territoire donc, sur sa partie sympa, il y a aussi une autre partie qu'il faut voir, que c'est un territoire qui vieillit avec une population vieillissante, je l'ai dit tout à l'heure, et qui est en perte de population parce qu'il y a un problème de renouvellement de population. Alors, avec ce problème de renouvellement, c'est un problème de vitalité économique aussi qui fait que nous avons sur ce territoire une population de bénéficiaires du revenu de l'ancien RMI, en fait, du revenu social qui est important. Nous avons aussi des familles monoparentales et plus des personnes qui ne sont plus beaucoup jeunes, puisque la population de 40 ans est peut-être de 40 à 65 ans est peut-être la plus importante aujourd'hui sur le territoire du Nord. Donc, nous avons un parc de logements un peu diversifié. Et puis, donc, tout à l'heure, comme je parlais de vitalité économique, Donc, ça se répercute sur un emploi qui est un emploi fortement orienté sur les emplois agricoles et qui mérite effectivement d'être diversifié pour qu'on puisse arriver à une politique intéressante, à en marier ces politiques d'emploi avec la biodiversité que nous avons, qui est extrêmement riche sur le territoire du Nord, marier cela avec les questions d'histoire et de tourisme aussi, qui sont des éléments importants. Mais ce sont des éléments dont il faut tenir compte. Et aujourd'hui, le passage à ruralité, en fait, bon, nous ne sommes pas tellement différents de beaucoup de régions de France, en fait, sur les questions de la ruralité. Sauf que nous avons un autre élément qui est un élément important qui nous empêche d'avoir accès peut-être à un certain nombre de politiques rurales. C'est une pression d'habitants par kilomètre carré qui est beaucoup plus importante que dans les régions rurales de France. Donc, ce qui nous empêche de rentrer dans des populations rurales où il y a un peu de désert. Donc, trois sous-territoires, en fait, le centre-atlantique, avec quatre grosses communes, mais la plus grosse vitalité du territoire se trouve à l'est, en fait, hein, sur la côte atlantique. Et ensuite, le Grand Nord, ce qu'on appelle le Grand Nord, qui est le territoire au-dessus de la ville de Sainte-Marie, et qui se termine à Grande-Guerre, qui est de loin un territoire, une des parties les plus belles de la Martinique, qui manque effectivement de vitalité, sous laquelle nous essayons de trouver des moyens, d'organiser des choses. Et un des aspects, c'est l'adhésion à Petite Ville de Demain, qui nous permet de sortir de cette non-visibilité que nous avons sur les territoires qui sont les plus beaux de la Martinique et bien visités quand ils le sont. Et puis un troisième territoire qui, lui, est particulier, c'est le territoire Nord-Caraïbe, en fait, hein, qui est un territoire, c'est celui qui a été impacté par la montagne Pelée, qui est un territoire de demi-communes, et qui sont aussi... qui est un territoire d'histoire, puisque l'histoire de la Martinique a commencé là, et elle a continué tout le long des communes, en fait, jusqu'à chacune des communes du Nord-Caraïbe, et même en retournant sur la côte atlantique, vous avez une part de l'histoire de la Martinique qui est toujours vivante. Donc les élus de Cap-Nord ont souhaité, pour organiser et mettre en œuvre ce territoire, le faire vivre et le développer, créer effectivement, passer en communauté d'agglomération. Et les compétences que nous avons retenues, qui sont les plus importantes, c'est le développement économique, j'en ai parlé tout à l'heure. Alors, son corollaire, l'aménagement de l'espace et de l'espace communautaire, avec un important volet d'aménagement du territoire. Une difficulté de l'habitat, on en a parlé aussi tout à l'heure, donc qui est aujourd'hui un des éléments de la politique de Cap-Nord. La politique de la ville, alors, c'est vrai que j'ai dit tout à l'heure que nous étions dans un territoire rural, mais je vous ai quand même présenté donc, la partie qui est la partie la plus dynamique, en fait, qui a deux communes retenues dans les questions de la politique de la ville, c'est le Robert, qui est à l'ouverture du territoire sur la partie atlantique, et Sainte-Marie un peu plus haut. Et puis, gestion des milieux aquatiques, qu'on appelle la GEMAPI, qui est un élément important parce que nous sommes le territoire qui... Alors, on a coutume de dire que c'est le grenier de la Martinique. Alors, en dehors du fait qu'on est le grenier de la Martinique, on est aussi le puits de la Martinique, puisque les principaux courants aquatiques viennent du Nord et il est important de pouvoir gérer ces choses-là. Et nous sommes en plein dans la GEMAPI sur ces choses-là. Ensuite... Nous ne sommes pas très. Non. Les gens du voyage font partie des compétences de la communauté d'agglo. Nous ne sommes pas très concernés par cette compétence, mais par la dernière compétence qui relève de la collecte et du traitement des déchets, oui, c'est un élément important de Cap-Nord. Alors, autre compétence, puisque en dehors des compétences obligatoires, nous avons retenu dans notre vécu des choses à lancer. La gestion des voies d'intérêt communautaire, donc, puisque ça, c'est important pour pouvoir développer le territoire. L'assainissement des eaux usées, c'est aussi un volet qui est un volet important. et la distribution d'eau, parce qu'effectivement, donc, comme je disais tout à l'heure, nous avons effectivement de l'eau, de une profusion d'eau, mais il y a une difficulté dans la distribution, dans l'égalité de la distribution, et puisque nous distribuons de l'eau pour tout le nord de la Martinique. Donc le cadre de vie et l'aménagement de la gestion culturelle et patrimoniale, puisque ce sont des éléments qui sont importants pour notre développement. Et puis, les compétences facultatives de Cap-Nord, puisque Cap-Nord, il y a un volet politique et les politiques, effectivement, dans leur vécu, veulent régler un certain nombre d'éléments. Donc, les questions d'équipement touristique, puisque j'ai parlé aussi du tourisme, la culture, donc on en a parlé aussi, les sentiers pédestres avec le tourisme, l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi de la gestion intégrée de la ressource en eau, ça, c'est aussi un élément important. L'élaboration et la mise en œuvre de schémas de déplacement et de transport terrestre maritime. Nous sommes une île et nous sommes bordés sur la côte atlantique avec 13 communes littorales. Donc, c'est un élément important qu'on est en train d'essayer de voir, de prendre en compte. Et puis, informatique et technologie, c'est ce qui nous ramène aujourd'hui, qui fait que nous sommes aujourd'hui en lien avec les espaces ruraux de France. Parce que, effectivement, donc, depuis longtemps, donc, Madame Grandville qui est. Qui s'est occupée de ça depuis très longtemps, et Madame Thomas, qui est avec elle, travaille à tout ce qui est informatique et technologie d'information et de la communication pour permettre au Nord d'être un territoire visible et présentant les atouts, présentant les éléments et permettant aux personnalités du Nord et aux personnes du Nord d'être aussi dans la modernité et en lien avec le reste du monde. Voilà. Donc nous sommes maintenant dans cet enjeu qui est la transformation numérique. Et je vais laisser la parole à mes collègues, puisqu'elles ont plus de choses à dire que moi à ce sujet.
Merci Dominique pour cette excellente présentation. Madame Grandville, je pense que c'est à vous.
Oui, alors, avant de rentrer dans le vif du Media Lab, on va voir dans quel. Transformation numérique arrive. En fait, vous comprenez que le numérique est un fort enjeu pour le développement du territoire. Donc, rapidement, nous avons démarré toute l'informatisation au niveau des communes. Et de 2014 à 2020, c'est toute une stratégie de développement qui s'est mise en place avec 4 objectifs stratégiques. Donc, il faut forcément, pour arriver à créer ce développement, il faut d'abord développer la culture du numérique de manière à ce que le numérique ne soit plus un frein pour certains, penser à tous les publics. Et donc, forcément, on va devoir créer et on crée des usages et des services numériques au niveau de tous les publics. On va utiliser le numérique également comme support de développement économique de manière à contribuer à l'économie, à contribuer au développement des entreprises aussi au sein du territoire. Et puis, donc, forcément, on va continuer à informatiser les administrations que sont les communes de manière à parfaire leur gestion et être un service public connecté. Donc, dans ce contexte, au sein du projet territoire de Cap-Nord, il y a un projet de mandature numérique donc pour contribuer à l'accès au numérique, mais justement développer cette pratique du numérique au sein de tous les services, au sein de tous les publics, comme je disais tout à l'heure. Donc, c'est fort de ce contexte qu'on a pris en compte les enjeux du territoire et l'idée est de donc dynamiser ce territoire, faire de lui une terre d'expérimentation et d'innovation, et ça a commencé depuis quelques années, avec des expérimentations européennes également. On a participé au projet RuralX pour faire arriver le haut débit. très au débit dans une zone où jusqu'à maintenant on a encore des difficultés pour le haut débit. Travailler aussi avec les entreprises, on a suivi avec le projet Rural Inclusion de manière à ce que les entreprises puissent bénéficier des atouts avec des institutions et les administrations. Donc voilà deux grands exemples. Ouais. Donc, la réponse à ces enjeux réside dans le projet Inor Martinique, qui prend donc toutes les composantes du territoire, à savoir les communes, les municipalités, les habitants et également les entreprises. Donc, il s'agit d'optimiser la gestion des entreprises, faire des administrations, pardon, faire de ces communes, des services publics en termes d'administration électronique. Donc, on parle tout le temps d'administration. On va faciliter la vie quotidienne des citoyens grâce au numérique, en leur apportant, bien sûr, tout ce qui est usage des nouveaux services. On verra comment. On va contribuer au développement économique. On a créé une pépinière d'entreprises connectées. Et c'était d'ailleurs la première de France qui était connectée. On a trois sites au niveau des trois bassins. Vous avez découvert tout à l'heure avec Destin. Donc, sur trois communes du Nord, une dans chaque bassin. Donc, et ensuite, on va forcément développer la culture numérique, on l'avait déjà. Donc, ce développement numérique passe par un devoir d'inclusion numérique, puisque dans nos projets, c'est un fort aspect. Et d'ailleurs, Cap-Nord est labellisé TANI, donc Territoire d'action pour un numérique inclusif, dans la promotion 2020. Donc ici, on voit comment l'inclusion numérique est forte pour sensibiliser les citoyens à de nouveaux usages et même les élus. Là, nous voyons notre président de commission TIC, qui est M. Salibert, qui ne pouvait pas nous accompagner aujourd'hui. Et nous avons participé également à des actions favorisant l'appropriation des outils numériques auprès des jeunes. En bas, à gauche, vous voyez un atelier super codeur avec des jeunes de 9 à 13 ans que nous avons réalisé. Et on pense bien sûr aux personnes âgées également. Donc, ce développement numérique passe par une facilitation. Cap-Nord veut accélérer le numérique pour répondre aux problématiques du territoire et a choisi de justement mettre en place un écosystème numérique fort des enjeux qui comprend le développement en termes de réalité virtuelle, notamment par rapport au tourisme, à la culture, on l'a vu tout à l'heure, l'e-santé par rapport au vieillissement et au désert médical, surtout orienté vers les objets connectés. Et puis, d'autres laboratoires des usages. On a Cap-Nord a été accrédité ENOL par rapport à l'initiative du SIMLAB, le Caribbean Innovation Martinique Living Lab, qui comprenait entre autres toutes les actions qu'on avait déjà menées, la lumière d'entreprise, le réseau de bibliothèques qui compte les lecteurs à domicile, et puis qu'il y ait une interaction entre toutes ces bibliothèques. Et puis, nous avons également un projet de mettre en place un Fab Lab, impression 3D, donc avec aussi d'autres outils en matière de photos, de broderie numérique. Et le premier laboratoire que nous avons mis en place et qui fonctionne depuis 2015, et qui a été lancé avec des demandeurs d'emploi, c'est le Media Lab que vous allez découvrir avec Alice Comaret.
Donc tout à fait, effectivement, comme vous l'avez compris, l'inclusion numérique est très importante pour nous et nous avons donc à cœur de pouvoir vulgariser un certain nombre de notions autour du public et faciliter l'appropriation de l'utilisation de différents outils à destination du grand public. Donc, qu'est-ce que le Media Lab ? Le Media Lab, c'est effectivement un laboratoire d'initiation à la pratique et à la production du budget. Donc, il n'y a pas réellement de vraie définition du Media Lab, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est effectivement un laboratoire dédié aux médias, et donc c'est un lieu dans lequel on va retrouver des moyens numériques, des ressources, mais aussi des compétences, et surtout un lieu d'expérimentation dans les secteurs médias et de la communication. Il faut savoir que quand nous recevons un certain nombre de stagiaires, on a toujours coutume de leur dire qu'il n'y a pas d'enjeu. L'idée, c'est toujours de ressortir en fait, des formations avec un plus. Donc, effectivement, pouvoir s'approprier un certain nombre d'outils et peut-être mener à bien un certain nombre de projets qu'ils souhaitent pouvoir concrétiser. Donc, comme vous l'avez compris, on va s'appuyer sur des outils numériques et on va chercher à produire du contenu. Donc, par contenu, il s'agit aussi bien de captation visuelle ou encore sonore que l'on pourra proposer en direct ou en différé. Ça, nous le verrons tout à l'heure. Et bien sûr, relayé par le biais des réseaux sociaux, mais pas que, puisqu'il y a un certain nombre de plateformes aujourd'hui qui nous permettent de rendre cette information accessible au grand public. Donc, les objectifs du Media Lab, on les a déjà un peu évoqués, mais on va revenir là-dessus. L'idée, c'est réellement, de manière globale au niveau du territoire et de la stratégie numérique de Cap-Nord, de favoriser l'émergence d'une culture du numérique. Et particulièrement dans le cadre du Media Lab, on va chercher à initier aux pratiques audiovisuelles et aux médias. On ne parle pas vraiment de formation, mais plus d'initiation et de sensibilisation, puisque l'idée, c'est vraiment de pouvoir découvrir et expérimenter. On va également favoriser l'expression créative, puisque nous avons des demandes qui émanent, par exemple, d'associations ou de porteurs de projets qui ont effectivement réfléchi à un contenu qu'ils souhaiteraient publier et viennent effectivement avec un objectif bien précis. Et dans ce cadre, nous les accompagnons à mener à bien leur projet. Nous avons aussi des stagiaires qui viennent, pour lesquels cette initiation s'inscrit dans un parcours de formation. Et l'idée, c'est vraiment de leur faire découvrir les nouveaux métiers liés au numérique et donc éventuellement susciter des vocations. Nous allons également renforcer les pratiques collaboratives et la co-construction. Il faut savoir que nos différents groupes de formation s'appuient sur… généralement, on a des groupes qui sont constitués de 5 à 7 personnes, avec effectivement des stagiaires qui ont des parcours différents, des profils différents, des expertises ou des compétences différentes. Et là, toute la richesse de cet échange est de pouvoir faire toutes ces personnes collaborer et travailler sur un projet commun avec le Media Lab. Et puis enfin, on va aussi venir accompagner les projets des acteurs du territoire en utilisant le numérique. Donc, comme je vous le disais, on peut effectivement recevoir des porteurs de projets ou éventuellement des chefs d'entreprise qui ont besoin effectivement d'avoir un petit peu plus d'informations sur les outils que nous utilisons de façon à pouvoir conforter leurs connaissances ou éventuellement affiner leurs besoins. Donc, vous l'aurez bien compris, le Media Lab, c'est un espace de création, d'innovation, et j'insiste sur le partage et la découverte. Le Media Lab de Cap-Nord a été lancé donc, le 12 mai 2015 lors de la deuxième journée territoire de demain, et nous avons pu bénéficier de l'accompagnement d'une société qui a réalisé le transfert de compétences, donc à destination du technicien référent qui intervient dans le cadre du Media Lab, mais également d'agents du service communication de Cap-Nord. Et ils ont également formé des stagiaires, donc qui étaient des jeunes demandeurs d'emploi, parce qu'il y avait vraiment cet objectif d'associer les jeunes de notre territoire et particulièrement les demandeurs d'emploi pour leur permettre de découvrir de nouveaux usages. Donc c'est un laboratoire qui se veut itinérant. Il faut savoir que nous avons voulu, comme on vous l'a présenté tout à l'heure, nous avons un territoire qui est assez grand, qui s'articule autour de 3 bassins de vie. Et nous souhaitions vraiment avoir une approche mobile et pouvoir nous déplacer sur toutes les communes du territoire pour apporter effectivement ces initiations au plus près des personnes qui le demandent, mais aussi pouvoir effectivement se déplacer sans encombre avec le matériel. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand nous avons des manifestations qui sont réalisées en dehors de nos locaux, tout le matériel vient dans un petit utilitaire. Donc, ça nous permet vraiment de pouvoir nous déplacer très, très facilement sur le territoire. C'est également un laboratoire qui est éphémère dans le sens où nous le mobilisons aujourd'hui que pour faire face à des demandes qui proviennent soit de Cap Nord, des associations, du territoire, de porteurs de projets. Les médias peuvent aussi être permanents et avoir effectivement des modalités de fonctionnement qui soient identifiées et définies en amont. Mais ce qu'il faut surtout retenir à ce niveau, c'est que le Media Lab est totalement ouvert, c'est-à-dire que tout le monde peut y accéder. Il est accessible à tous les publics de façon à pouvoir partager un maximum d'informations et sensibiliser le maximum de personnes. Donc, pour Cap Nord, il est vrai que nous avons eu à utiliser le Media Lab dans le sens où nous avons pu former un certain nombre d'agents de la collectivité, donc qui ne sont pas du tout des techniciens et qui ont effectivement contribué à documenter les actions du territoire et à les valoriser en prenant part aux actions du Media Lab. Donc, vous pouvez voir effectivement sur la photo tout en bas une équipe d'agents qui avait été formée et qui a réalisé la captation et la retransmission en direct de l'installation du nouveau conseil communautaire, par exemple. Nous avons également eu l'occasion de former donc, des demandeurs d'emploi ainsi que des stagiaires sur d'autres sessions de formation Media Lab dans le but de valoriser donc, les actions labellisées de Cap Nord qui permettent effectivement de valoriser tout simplement et de promouvoir le territoire. Vous voyez sur les photos tout en haut, je vous disais que le Media Lab était un laboratoire mobile. Nous sommes effectivement au bord de la rivière, à Grand-Rivière, en amont d'une manifestation. Donc, ce Media Lab nous a également permis d'organiser un certain nombre de tables rondes en amont de manifestations, toujours les actions labellisées. Donc là, vous avez deux exemples, l'un sur la semaine de l'indianité et le second sur la fête du poisson. Donc, vous pouvez voir qu'à chaque fois, nous changeons de cadre et nous avons organiser ces tables rondes en mobilisant des experts à chaque fois autour de la thématique qui est retenue pour pouvoir apporter de l'information au grand public. S'agissant justement du grand public, ce que le Media Lab permet de réaliser, c'est déjà de se familiariser avec les technologies, comme on l'a vu tout à l'heure, et concrétiser des idées et des projets. Donc là, je prends le cas des quelques illustrations que vous voyez, où nous avons un stagiaire tout en haut à droite qui mûrit un projet professionnel et qui a souhaité pouvoir prendre part à une formation du Media Lab pour pouvoir affiner son projet et surtout pouvoir effectivement avoir des compétences complémentaires, éventuellement pouvoir aussi poursuivre sa formation en recherchant effectivement des formations dans le domaine de l'audiovisuel. Nous avons également accompagné une association, donc Émergence Secourisme, qui avait pour objectif de valoriser son action, l'action qu'elle mène sur le territoire. Donc là, nous sommes sur une association qui ne se situe pas forcément dans le nord de la Martinique, plus dans le centre, mais que nous avons choisi d'accompagner et d'accompagner les jeunes services civiques de cette association pour qu'ils puissent réaliser effectivement leur plateau TV, comme vous pouvez voir en extérieur, et également le film promotionnel pour valoriser leur action. Et puis enfin, vous avez d'autres cas de figure où nous avons accompagné des agents du Centre hospitalier universitaire de la Martinique, mais également des entreprises de l'économie sociale et solidaire qui ont effectivement pu utiliser ce dispositif. Donc le Media Lab se compose de plusieurs éléments, bien évidemment, dans un premier temps, du matériel. Donc, il faut savoir que ce matériel a été acquis par Cap Nord en 2015 grâce à une subvention qui nous a été accordée dans le cadre du FEDER et qui nous a permis, dans un premier temps, de faire l'acquisition de caméras, de micros et d'une régie de production. Au fur et à mesure, et aussi en fonction des besoins et des attentes des personnes qui nous sollicitaient, nous avons procédé au renforcement de ce matériel en faisant l'acquisition donc, de micro-cravates, d'un web presenter qui permet également de réaliser du streaming et puis des moniteurs, bien sûr, qui permettent de réaliser le suivi durant les captations. Donc, ce matériel est bien évidemment mis à disposition des stagiaires durant la formation et jusqu'à ce jour peut-être emprunté pour effectivement finaliser les projets. Bien évidemment, la condition est que ces derniers aient été formés dans un premier temps à l'utilisation du matériel. Comme il s'agit d'un laboratoire, nous avons également tenu à utiliser des logiciels libres, donc totalement gratuits, pour permettre aux stagiaires de poursuivre effectivement leurs travaux à l'issue de la formation sans que cela constitue un coût pour eux. Donc tous les logiciels que je vous présente, aussi bien Blender, GIMP, OBS ou encore DaVinci Resolve, sont gratuits et permettent de réaliser du montage vidéo, de la retouche photo, de la modélisation 3D, etc. Bien évidemment, on ne peut pas parler de Media Lab sans parler des réseaux sociaux. Donc là, je fais surtout référence à Facebook et Twitter, puisque ce sont les deux réseaux que nous, particulièrement à Capcom, nous utilisons. Mais bien évidemment, nous pouvons nous adapter en fonction des besoins des stagiaires pour leur permettre aussi de diffuser l'information de manière instantanée en s'appuyant sur les réseaux sociaux. Et puis enfin, on s'appuie également sur les plateformes de diffusion grand public.
On vient de perdre le son. Allô ?
Oui.
Oui, on a perdu le son quelques secondes.
Vous m'entendez ?
Maintenant, oui.
D'accord, très bien. Je poursuis. Et puis pour finir, bien sûr, des ressources humaines. Alors, excusez-moi, il y a une petite coquille sur cette diapo. Il faut savoir effectivement qu'aujourd'hui, le Media Lab s'appuie sur une équipe de techniciens de Cap Nord, donc trois techniciens, dont un donc, que vous voyez sur la photo, qui est le technicien référent et animateur du Media Lab, M. Frédéric Lenormand, qui dispense toutes les formations, maîtrise effectivement tous les logiciels et accompagne les stagiaires en fonction de leurs besoins. Il est également accompagné de deux autres techniciens, Michel Villette et Olivier Louisin, qui effectivement l'accompagne en cas d'indisponibilité ou sur des actions particulières. Donc nous avons jusqu'à aujourd'hui accompagné des publics qui sont assez diversifiés. Donc comme vous l'avez vu, les agents de Cap Nord ont bénéficié de ces formations, mais pas que, puisqu'on s'est également adressé aux agents des communes du périmètre communautaire. Nous avons eu l'occasion de former des membres d'associations, des demandeurs d'emploi, des jeunes en service civique, mais également des porteurs de projets et des chefs d'entreprise. Donc l'idée pour les porteurs de projets et les chefs d'entreprise n'est pas de se substituer aux entreprises hein, qui œuvrent et qui proposent aussi du contenu. L'idée, c'est de pouvoir en tout cas leur montrer ce que ces outils permettent de réaliser afin qu'eux aussi puissent avoir une vision globale de ce qu'ils peuvent demander effectivement aux entreprises quand ils souhaitent pouvoir produire différents types de contenus. Donc là, c'est juste pour pouvoir illustrer. Vous voyez effectivement sur la partie gauche, c'est un groupe de demandeurs d'emploi que nous avions formé et qui avait accompagné la captation de la semaine de l'innovation publique en 2018. Nous avons effectivement les jeunes de l'association Émergence Secourisme qui avaient réalisé leur plateau TV à l'occasion de l'anniversaire de l'association. Des agents de la ville de Trinité qui souhaitaient effectivement effectuer des interviews lors du Festival de la BD, qui est une biennale organisée par la ville autour de la bande dessinée, et ainsi que d'autres intervenants qui avaient été formés. Donc, s'agissant des formations, comme je vous le disais tout à l'heure, on propose plusieurs types de formations. La première est liée effectivement à l'utilisation de la caméra et donc à la régie, qui est liée à l'utilisation de ces trois caméras. On propose également des formations liées au montage vidéo avec l'outil Resolve, au dessin vectoriel avec Inkscape, la retouche photo, GIMP, la modélisation 3D, le traitement audio, et puis bien sûr, on aborde toujours la diffusion streaming, puisqu'aujourd'hui, il est important aussi d'apporter de l'instantanéité à certains événements. Donc, on peut faire un bilan au bout, effectivement, de cette expérimentation de 6 ans. Il est vrai que c'est une expérimentation qui a été riche en enseignements, puisqu'on a réalisé que le Media Lab a permis d'organiser des discussions autour de sujets divers concernant le numérique, utiles au grand public. Et nous souhaitons poursuivre cette action en apportant plus d'informations au grand public. Bien sûr, il a permis de réaliser des captations de manifestations, donc valoriser effectivement des actions et des retransmissions en direct. Et puis, on se rend compte aussi que le matériel aujourd'hui est mutualisé et de plus en plus demandé par les communes et par les associations qui souhaitent effectivement pouvoir utiliser le matériel pour leur propre projet. Donc, les différents stagiaires que nous avons eus nous ont fait comme retour qu'ils ont pu effectivement acquérir de nouvelles connaissances sur les outils audiovisuels, mais également des compétences en matière de montage, parce que ce sont effectivement les deux aspects qui sont le plus demandés aujourd'hui dans nos formations. Et certains, effectivement, avaient également émis le souhait de lancer leur propre projet à l'issue de ces formations, notamment lancer leur web TV ou éventuellement créer des vidéos promotionnelles ou institutionnelles. Mais nous avons également eu des demandes relatives à des vidéos de sensibilisation du grand public, particulièrement sur les questions d'environnement et de recyclage. Il n'en demeure pas moins qu'il y a également des points à améliorer. Aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que les modalités de fonctionnement du Media Lab sont à définir, vraiment pour pouvoir s'adapter aussi à la demande, réfléchir éventuellement à un lieu d'implantation, mais c'est vrai que cette réflexion n'est pas simple, puisque notre territoire est vaste et que nous souhaitons rester accessible. Et puis, bien sûr, nous avons constaté que nous disposons d'un manque de ressources humaines, puisque les techniciens qui sont associés au Media Lab aujourd'hui sont polyvalents et interviennent sur d'autres actions au niveau de Cap Nord. Et bien sûr, le matériel qui aujourd'hui se révèle insuffisant pour pouvoir faire face à la demande. Donc, en quelques chiffres, le Media Lab depuis 2015, c'est 31 formations réalisées, plus de 130 personnes formées, 14 retransmissions en direct et particulièrement de conseils communautaires et d'élections, par exemple, du président, notamment du SMTVD. Nous avons eu des captations de manifestations et puis également des plateaux TV pour pouvoir transmettre l'information au grand public. Donc, les perspectives que nous envisageons, c'est, comme nous l'avons vu tout à l'heure, structurer le laboratoire et identifier un lieu d'implantation. Donc, structurer, c'est vraiment définir ses modalités de fonctionnement, horaire, jour d'ouverture, prévoir un investissement pour pouvoir renforcer l'équipement du matériel, faciliter la participation du public pour qu'il puisse nous faire part de thématiques que nous puissions traiter par le biais de plateau TV. Et puis constituer et faire vivre la communauté Media Lab avec tous les anciens stagiaires, si je puis dire, pour pouvoir avoir un meilleur suivi des réalisations faites à l'issue des formations et puis les accompagner effectivement en fonction de leurs besoins. Et puis enfin, continuer notre accompagnement à destination des jeunes du territoire en formalisant une convention avec la mission locale du Nord de la Martinique. Donc, nous avons la chance, depuis cette nouvelle mandature, d'avoir notre président, Bruno Nestor Azero, qui, effectivement, porte le projet d'évolution du Media Lab, et nous souhaitons pouvoir poursuivre ces travaux à l'avenir. Donc là, effectivement, vous avez aussi les coordonnées donc, des deux interlocuteurs principaux du Media Lab, donc M. Lenormand, le technicien référent et animateur, et moi-même, de façon à pouvoir disposer de plus d'informations. Si vous le souhaitez, nous nous tenons à votre entière disposition. Nous avons été un petit peu plus long que prévu et je m'en excuse, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Et donc maintenant, nous nous tenons à votre entière disposition pour les questions-réponses.
Merci beaucoup. Merci pour cet exposé. Effectivement, au-delà de ce que je savais du projet, ça va beaucoup plus loin puisque c'est aussi une initiation, c'est vraiment une démarche d'inclusion numérique autour de solutions logicielles, autour de création en ligne. Enfin, c'est bien plus loin que la notion de média qu'on pouvait connaître à l'époque en 2015. Ça va beaucoup, beaucoup plus loin. Donc, c'est super. Merci beaucoup. Hein. Merci à vous deux et puis à Dominique Destin de votre témoignage. Sans plus attendre, je vais demander à nos amis de poser leurs questions ou de réagir par rapport à ce qui leur a été présenté. J'avais une question au rebond par rapport à ce que Jean-Marc a contribué en début de séance dans le chat. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes sur des dispositifs, les nouveaux dispositifs numériques éducatifs, numériques inclusifs? Vous savez, ça a été lancé le 4 juin. Et puis la deuxième chose, est-ce que vous avez mobilisé le dispositif des conseillers au numérique?
Alors, oui, effectivement, donc on s'intéresse particulièrement à toutes les questions relatives à l'inclusion numérique et nous avons déjà eu l'occasion d'échanger avec des intervenants qui œuvrent dans la EdTech. Donc, effectivement, l'idée, c'est de pouvoir poursuivre la démarche d'inclusion numérique et de l'enrichir justement en se concentrant et, enfin, pas forcément en se concentrant, mais en accompagnant également les publics sur les questions d'éducation à l'utilisation du numérique, notamment l'utilisation, par exemple, de robots ou ce genre de choses. Donc, on essaye effectivement, en fonction des différentes thématiques qui sont proposées, de pouvoir, en fonction des besoins aussi du territoire et des intervenants et des partenaires que nous avons, poursuivre notre démarche. Donc, ça, c'était pour répondre à votre première question. Et concernant la deuxième question, nous avons effectivement été éligibles au recrutement de deux conseillers numériques France Services, donc qui devraient intégrer la collectivité dans les prochaines semaines. Et effectivement, l'idée, c'est de pouvoir aussi continuer cette démarche d'inclusion numérique avec ces conseillers numériques qui vont se déplacer sur le territoire, dans les différentes structures du territoire, qu'il s'agisse de bibliothèques, qu'il s'agisse de cyberbases ou encore autour d'autres dispositifs pour pouvoir effectivement apporter cette information plus près du public.
D'accord. Et vous l'avez peut-être dit, mais comme j'ai eu un... Voilà, il a fallu que je me déplace. Quel est le retour que vous faites par rapport aux jeunes avec lesquels ça marche le mieux? Avec quels âges notamment la mayonnaise prend-elle le mieux? Enfin, est-ce que vous avez comme ça des petits éléments un peu chiffrés pour nous donner votre retour depuis 2015?
Oui, alors effectivement, ce qu'on a pu voir, c'est que les approches sont différentes. Donc pour les jeunes, par exemple, je parle notamment des stagiaires, donc les mineurs, hein, moins de 18 ans, qui ont pu bénéficier des formations au Media Lab, là on est vraiment sur de la découverte. Ils sont dans une phase de construction de leur parcours professionnel et ça leur permet effectivement d'avoir accès à d'autres métiers qu'ils ne connaissaient pas forcément, auxquels ils ne s'intéressaient pas forcément, et effectivement peut-être à revoir aussi leur parcours professionnel en s'appuyant sur les éléments qui leur ont été proposés durant ces formations. Dans un second temps, concernant les jeunes services civiques, alors on a eu plusieurs retours. Il y en a effectivement qui, comme cette formation s'inscrivait dans des parcours de formation identifiés par les associations, donc qui viennent et qui participent à la formation, j'ai envie de dire à titre d'information, mais sans forcément avoir un réel intérêt pour ce type de technique. Et puis, il y en a d'autres, donc c'est ce qu'on a évoqué. On avait eu le cas notamment chez trois jeunes qui ont réalisé des formations, qui suite aux initiations se sont dit qu'ils auraient souhaité lancer leur Web TV. Et fort de l'expérience qu'ils ont eue avec les formations, ils se sont dit pourquoi pas effectivement lancer la Web TV. Donc il y en a un particulièrement qui était un agent de la ville de Sainte-Marie et qui souhaitait porter ce projet au niveau de cette collectivité. Et puis les deux autres, c'était plus à titre personnel.
D'accord.
Et puis je voudrais ajouter quelque chose. En fait, on veut aussi susciter des vocations. Et notamment permettre à des jeunes qui vont partir en études de savoir qu'il y a quand même deux organismes. Il y a le campus Canadien des Arts et l'école parallèle 14. Ce qui fait qu'on peut les inciter à voir qu'ils peuvent rester en Martinique pour suivre des études dans le domaine de l'audiovisuel et de l'art, des arts numériques. Donc, on espère qu'on aura des retours à ce niveau également.
D'accord. On peut estimer que combien de jeunes depuis 2015 sont passés par le Media Lab?
Pardon, vous pouvez
combien de jeunes sont passés par le Guyana?
Combien de jeunes? Alors, il faut savoir que sur les 130 participants qu'on a eu l'occasion de former, la grande majorité sont effectivement des jeunes. Donc, jeunes services civiques, demandeurs d'emploi et stagiaires. Donc, je n'ai pas de chiffre précis, mais je pourrais vous dire de manière plus globale que plus de 60% de l'effectif des personnes formées est constitué effectivement des jeunes, puisque c'est notre cible principale. Et ensuite, vous avez effectivement la minorité qui est représentée par les agents de Cap Nord, agents des collectivités du territoire également que nous avons formés.
D'accord. Est-ce qu'il y a des questions autour de la table? Je vois qu'Yannick a mis sa cravate, mais ce n'est peut-être pas pour nous aujourd'hui. Je crois qu'il a un truc. Il doit avoir une réunion, un truc comme ça.
Ouais, j'étais sur la commission départementale des gens du voyage avec le préfet. Donc,
voilà. D'accord. Je vous explique cela parce que la cravate, ce n'est quand même pas la marque de fabrique de Yannick. Autour de la table, des questions, des remarques ou des témoignages par rapport à ce que vous avez entendu ce soir? Non, visiblement, c'était limpide.
C'était très complet. Et à la limite, les questions que je voulais poser, c'est les deux premières que tu as posées. Donc,
Je voulais demander à nos amis de Cap-Nord-Martinique, est-ce qu'il y a des projets de campus connectés? Est-ce qu'il y a des campus connectés labellisés sur votre territoire ou sur l'île?
À ma connaissance,
la visée, non, on a quand même super info aussi sur la Martinique. Mais la visée à ce niveau, non. Et puis, on a quand même aussi un lycée, puisque le lycée de Bellefontaine, qui se trouve dans le nord aussi, qui travaille aussi sous les arts numériques tout ce qui est design numérique, ils évoluent dans ces études.
Le principe des campus connectés, c'est effectivement des lieux où les jeunes d'un territoire vont pouvoir suivre des études supérieures, mais dans des universités qui ne sont pas forcément de proximité. Je prends l'exemple du campus connecté du Cantal à Aurillac, et à la rentrée, il va ouvrir une antenne à Saint-Flour. Et à partir de cette rentrée, donc là, ils avaient des cours de l'université de Clermont-Ferrand, de l'université de Grenoble. Et là, à partir de septembre, ils vont accueillir des formations, des cursus de la Sorbonne. C'est-à-dire de jeunes Cantaliens pourront, dans le Cantal, suivre un cursus Sorbonne et être diplômé de la Sorbonne. Donc voilà, c'est pour des territoires ruraux très enclavés. Nous, ce n'est pas la mer qu'on a autour, c'est de la campagne. Mais le fait est que, voilà, je me disais que pour un territoire comme la Martinique, ça peut faire sens pour vos jeunes d'accéder à des formations supérieures d'université. Ça peut partir.
Tout à fait. Alors, effectivement, au niveau de Parallèle 14, je sais qu'ils avaient un certain nombre de partenariats, mais dans leur domaine précis, hein, puisqu'ils œuvrent aussi dans la création de tout ce qui est animation, en fait, donc jeux vidéo, etc. Ils avaient des partenariats avec des campus à l'international, donc de la Caraïbe, mais aussi à l'international. Donc, dans leur domaine spécifique, Parallèle 14 a fait cette démarche. Par contre, s'agissant des autres structures, à ma connaissance, non, je ne crois pas qu'il y en ait d'autres
Et je crois que l'appel à projet continue, enfin l'appel à candidature sur les campus connectés. Je ne suis pas sûr, mais on suivra ça de près.
D'accord.
Et techniquement, par rapport à vos territoires, vous en êtes où du déploiement au niveau débit? C'est-à-dire, il y a de la fibre? Comment ça se passe?
Alors, effectivement, la question du déploiement de la fibre, particulièrement sur notre territoire, est très importante, puisque notre territoire regroupe le plus de zones blanches à l'échelle de la Martinique. Donc, c'est un travail qui a été initié donc, par la collectivité territoriale de Martinique et qui se poursuit. Nous avons dans notre collectivité, donc notre territoire plutôt, trois communes qui doivent être raccordées au courant de cette année. Et les autres, effectivement, seront raccordés au fur et à mesure. Et il me semble que l'échéance prévue est 2025. Donc, il est vrai qu'on a
c'est la collectivité territoriale qui a pris la compétence déploiement de la fibre, alors.
Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est vrai que sur certaines actions, Cap Nord a souhaité s'associer effectivement à l'action de la collectivité territoriale, notamment pour identifier les sites prioritaires que nous avions identifiés sur notre territoire pour répondre à ce besoin. Et donc, l'action est en cours et devrait a priori se terminer en 2025, si je ne me trompe pas.
Bah, si c'est comme chez nous, il comptait 3 ans de retard, mais c'est ça, ça, ouais.
Oui, il y a déjà du retard aujourd'hui, effectivement.
Et on avait identifié 42 180 prises à connecter au niveau du Nord.
Merci, merci pour cette question, Yannick. Merci pour ces réponses. Jean-Thierry.
Oui.
Sur les questions du logiciel libre, voilà enfin une collectivité qui travaille et qui diffuse cette culture.
Oui.
Ah, vous avez coupé votre micro, Jean.
Et là, vous m'entendez?
Oui, c'est oui. Bon.
Bon. J'ai effectivement apprécié la diapositive où on voyait apparaître les termes logiciel libre et puis la liste de tous les logiciels orienté multimédia qui apparaissait un peu après. Donc, c'est très bien de continuer dans cette direction, de façon en particulier que chacun puisse, sur des machines parfois plus modestes, ne serait-ce qu'un simple téléphone mobile, on peut faire déjà du multimédia avec un téléphone mobile, donc avec des moyens relativement modestes, mais très mobiles par contre, et constamment disponibles, on peut prendre un certain nombre de séquences qui pourraient être ensuite intégrées dans quelque chose de, mettons, plus professionnel et plus complet. Mais le fait d'être libre va permettre ensuite toutes les combinaisons possibles sans se soucier de questions de droits de copie. Il faudra toujours remercier les auteurs, bien sûr, mais il n'y aura pas de problème financier de transmission.
Tout à fait.
Alors, une question, mesdames, c'est quoi les prochaines étapes du Media Lab? Est-ce qu'il y a de nouveaux développements que vous envisagez, de nouveaux projets que vous souhaitez porter dans ce champ de l'inclusion numérique?
Alors, effectivement, la question du Media Lab et de son évolution, c'est, j'ai envie de dire que c'est une question qui nous anime au quotidien. Effectivement, comme je l'ai évoqué dans les perspectives, on a déjà un certain nombre de partenariats qu'on souhaiterait pouvoir formaliser pour pouvoir s'assurer de former un maximum en fait, de jeunes, donc le rendre accessible aussi. Donc, le partenariat que nous souhaitons établir avec la mission locale du Nord nous permettra effectivement d'y répondre. Et le travail que l'on réalise aussi avec les services publics de Cap-Nord pourra nous permettre aussi de toucher ces publics-là. Techniquement parlant, on a aussi la volonté de renforcer les équipements, puisque aujourd'hui, on a acheté du matériel en 2015. Bon, on a acheté d'autres équipements entre-temps, mais ils veulent que ça évolue très, très vite. Donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir toujours être au fait des derniers équipements effectivement qui sont proposés, aussi pouvoir comment dirais-je investir le champ de la mobilité. Donc comme l'a évoqué l'intervenant précédemment, les smartphones aujourd'hui sont des outils qui sont utilisés quotidiennement. Donc l'idée aussi c'est de pouvoir proposer des formations en s'appuyant sur ces outils-là, puisque tout le monde ne peut pas disposer d'une caméra au quotidien. Donc voilà, donc, on va continuer sur cet aspect-là, en sachant que l'éventail le panel de formation que je vous ai présenté précédemment a déjà évolué depuis le lancement du Media Lab. On a rajouté effectivement un certain nombre de thématiques donc, qui sont maîtrisées par M. Lenormand. La modélisation 3D, effectivement, on n'en parlait pas trop au début. Le streaming non plus, c'est effectivement en faisant l'acquisition du matériel et en mûrissant notre réflexion que nous venons enrichir notre offre de formation également.
Merci. Il nous reste un peu moins de 2 minutes. Je voudrais peut-être donner le mot de la fin à Nicolas Legge, président du Caribbean Institute of Innovation, qui a favorisé cette rencontre ce soir et je l'en remercie. Merci Nicolas de nous avoir présenté tes amis de Cap-Nord Martinique et bravo encore à Cap-Nord Martinique pour cette très belle initiative. Souhaites-tu ajouter quelque chose?
Oui, moi, historiquement, j'ai découvert la Martinique à travers un projet européen qui était le projet Royal Wings. Et j'ai toujours été attiré par la partie innovation innovatrice de ce territoire et son dynamisme. Bon, c'est vrai qu'il y a des freins, mais ces freins commencent à être surmontés. Le plus grand frein, à mon sens, au niveau de l'attractivité du territoire, c'est la bande passante. Si vous arrivez à mettre en place rapidement, et c'est très compliqué, je connais bien les freins, la fibre, ça va vous donner un dynamisme, une capacité d'échange incroyable. Et je pense que ça, c'est un des éléments. Bravo à vous, parce que je suis vraiment impressionné par tout ce que vous avez réussi à faire dans des conditions qui ne sont pas toujours très faciles. Vraiment, bravo, et puis continuez. J'ai hâte de revenir en Martinique, vous voir et parler d'autres choses avec Sébastien.
Merci beaucoup.
Puisqu'on parle de voyage, voilà, je vous invite évidemment à venir nous voir à Ruralitic dans le Cantal les 24, 25 et 26 août. Hein. Évidemment, on sera très très heureux de vous accueillir. Dans le chat, Salimata Sissoko demandait si elle pouvait avoir vos coordonnées. Salimata, vous les aurez à nouveau sur le document qui a été présenté, puisqu'il sera en ligne dès jeudi avec la vidéo de cette séance. Merci encore à la Martinique. La semaine prochaine, on revient dans le Cantal. On a démarré les lundis de Ruralitic dans le Cantal avec le Campus Connecté et nous les terminerons lundi prochain à 17h30 pour évoquer les actions du département du Cantal dans l'éducation des jeunes et la question de l'Europe, notamment avec un serious game, mais je ne vous en dis pas plus. Voilà, merci à toutes et à tous. Encore bravo la Martinique et à la semaine prochaine pour ceux qui seront avec nous et qui nous feront le plaisir de leur présence. À très bientôt. Portez-vous bien.
À très bientôt. Merci beaucoup.